Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 1er avril 2019 et c'est le retour des licornes. C'est normal, c'est la saison, le printemps revient, les licornes refont parler d'elles. Il y a presque quelque chose de bucolique dans tout cela. Dans le monde merveilleux de la finance, il y a beaucoup de contes de fées comme le coup sûr de l'année, beaucoup de personnages imaginaires comme le copain d'un copain qui connaît le cousin de Tim Cook et qui sait qu'Apple va racheter Nestlé. Il y a aussi des dieux comme Gordon Gekko, puisqu'il n'existe pas, mais il y a aussi beaucoup de rêves, comme celui d'avoir investi tout son fonds de pension dans une start-up qui vaudra 1000 milliards et qui transformera votre vie en conte de fées, justement. Le conte de fées de la semaine, c'est le retour en bourse d'une start-up que l'on qualifie de licorne. Alors je vous rassure tout de suite, je ne suis pas sous LSD et je ne vois pas des éléphants roses et des licornes à tous les coins de rue. J'ai bien une fille de 9 ans qui est parfois convaincue qu'elles existent à force de regarder les dessins animés avec des poneys multicolores et des chevaux qui volent en chantant, mais quand même. En l'occurrence, une licorne, c'est aussi une start-up valorisée à plus d'un milliard de dollars. Et cette start-up, elle se nomme Lyft. Pour ne pas perdre de temps, ce lundi matin, on va dire que Lyft, c'est le concurrent de numéro 1 de Uber. C'est le taxi bon marché. Sauf que, à la place de pinailler pour choisir le bon moment pour venir en bourse, ils ont mis le pied sur la pédale d'accélérateur et ils ont piqué la vedette à Uber. Vendredi dernier, Lyft, c'était l'événement de la journée, de la semaine et peut-être même du mois. La société de taxi disruptive a donc été valorisée à 24 milliards, soit 72 dollars par action. Et à la fin de la séance, elle valait 8% de plus. Cela nous fera sûrement une belle jambe si on n'avait pas souscrit à l'animal imaginaire. Mais toujours est-il que c'est un bon signe boursier selon les experts. Oui, il paraît que si ce genre d'IPO marche bien, c'est que l'investisseur a de l'appétit pour le risque. Ce qui veut dire qu'il est encore relativement enclin à acheter des actions aussi près du plus haut de tous les temps. Alors qu'en plus, on nous parle d'inversion de la courbe des taux toutes les 12 secondes sur CNBC et même sur Radio Bleu. En tous les cas, l'IPO de Lyft aura fait les choux gras de Wall Street en ce vendredi. Entre ça et le fait que les indices américains ont clôturé leur meilleur trimestre en termes de performance depuis 10 ans, ça avait de quoi faire boucler la semaine sur une note euphorique. N'oublions pas non plus que d'un point de vue technique, le S&P 500 nous gratifie d'une magnifique Golden Cross. La Golden Cross, qui correspond au croisement de la moyenne mobile des 50 jours et des 200 jours, est un signal de tendance positive pour les marchés. Pas forcément aussi efficace que l'inversion de courbe des taux ne l'est pour la récession, mais c'est quand même assez positif pour être signalé. L'autre sujet qui aura marqué les marchés, qui leur a permis de terminer ce premier trimestre 2019 dans le vert, c'est encore de l'information fondamentale pure et dure, uniquement des certitudes vérifiées et solides que l'on ne peut pas mettre en doute, puisque selon des rapports de certaines personnes qui sont proches des négociations mais qui préfèrent garder l'anonymat, on s'autorise à penser que les négociations sur le trade deal se passent bien. Alors, je veux pas faire le type qui râle tout le temps et qui a le mot sceptique tatoué sur le front, mais disons que comme on n'a pas eu une communication officielle depuis des semaines, d'ailleurs, je ne sais même pas si on en a jamais eu une, et que mis à part quelques pauvres tweets, on n'a rien de plus, je suis assez dubitatif sur le fait qu'il faille s'exciter comme un labrador devant une gamelle de pâté sur le sujet. Mais peu importe, cela semble fonctionner. Quoi qu'il en soit, depuis que les négociations sino-américaines sont en route, le moindre signe encourageant déclenche le retour de nos vieux instincts bullish. Et le marché part à la hausse comme si de rien n'était. Pas besoin de concret, pas besoin de fondamental. Un bon tweet bien écrit remplace avantageusement une bonne boîte de Viagra pour le marché. Entre le pétrole et l'or, c'est le pétrole qui se démarque. Il entame la semaine à 60,5 et on sent que le baril frémit et semble prêt à aller tout casser à la hausse. Les 65 dollars sont à la portée de pompe à essence. Et je parie les bijoux de ma grand-mère que si l'on franchit les 70 dollars d'ici la fin du mois, les ultra bullish qui prédisaient le baril à 300 dollars vont revenir de leur exil dans une lamazerie au Tibet pour refaire cocorico sur CNBC. L'or, lui, est à 1298 dollars et visiblement son jour de gloire n'est pas encore arrivé, même s'il suffit qu'il reprenne 15 dollars pour que les chantres de l'or à 2000 dollars reviennent également sur le devant de la scène. Ce matin, énorme surprise, les Chinois ont publié un chiffre qui a battu les attentes des économistes, chose qui n'était plus arrivée depuis que Donald Trump a vaincu l'Himalaya sans oxygène et en tongs. Alors où vous étiez encore plongé dans la fiction du dimanche soir sur TF1 et que vous entamiez votre second paquet de cookies, La Chine a publié son PMI qui montrait que le secteur manufacturier avait fortement rebondi en mars à 50,5 contre 49,2 en février. Et dans la foulée, la version privée du PMI annonçait un chiffre à 50,8 contre 49,9 en février. Ce sont les premiers chiffres encourageants en Chine depuis un bon moment. Les indices asiatiques sont donc au bord de l'orgasme haussier puisqu'il ne faudra pas longtemps pour que les analystes parviennent à déterminer que la Chine montre des signes de vie et que peut-être, je dis bien éventuellement peut-être, que la Chine est en train de tourner le coin. Dans le doute de ce marché, de ce matin, les marchés explosent en Asie, 2,3% en Chine, 1,5% au Japon et à Hong Kong. C'est peut-être le tournant que l'on attendait. Il manquerait plus que les négociations se passent bien. Si on vous pose la question suivante, quelle est la société la plus profitable de la planète? Quelle serait votre réponse? Faux. Je ne sais pas à quoi vous avez pensé, ni à qui vous avez pensé, mais je doute que votre réponse ait été Saudi Aramco. La société pétrolière saoudienne a rapporté 224 milliards l'an passé. Par contre, on ne donne que peu de détails sur son statut ESG et la manière dont les employés sont traités. Mais après tout, c'est pas ce qu'on leur demande. Autrement, on retient que le boss de la Deutsche Bank défend un éventuel merger avec la Commerz, estimant que les clients ne fuiront pas. Erdogan est en train de se prendre une claque aux élections turques. Il semblerait qu'il ait perdu Ankara et qu'Istanbul s'est pas gagné. Par contre, une fois qu'il aura mis les vainqueurs en prison, ça devrait aller normalement beaucoup mieux. Ailleurs, une des femmes parmi les plus riches de Russie s'est tuée dans le crash de son avion privé ce week-end et un rappeur nommé au Grammy s'est fait descendre à Los Angeles. Il s'appelait Nipsey Hussle. Personnellement, j'avais aucune idée qu'il existait. Pas sûr que Mozart se retourne dans sa tombe. Actuellement, les futurs sont en hausse de 0,7%. Merci la Chine. À côté, côté chiffres économiques, nous aurons le Manufacturing PMI en Allemagne. Pas certain qu'il fasse concurrence à la Chine. Même chose en Angleterre, mais là, c'est pas certain qu'il fasse concurrence au Brexit, qui reste le feuilleton de l'année. Et aux USA, nous aurons les retail sales à bien observer pour voir si l'économie ralentit ou pas. Les new home sales, la semaine dernière, avaient montré deux ou trois signes d'amélioration. Pour terminer, investir.ch publie un article exclusif sur les risques réels d'une inversion de courbe. Ne manquez pas de les découvrir en scrollant un peu plus bas et prenez les mesures qui s'imposent. En attendant, il me reste une chose à vous dire. À demain.